Quotidien avec Hélène Denis.
Déjà le 9 décembre, bon mardi à tous et à toutes. Paysage lumineux, température glaciale et humeur en forme de quoi, Mathieu?
Je dirais en forme de deux poches de thé ce matin.
Vous avez mis deux sachets de thé dans votre tasse. Est-ce que c'était volontaire?
Bien, ça l'est devenu une fois que les deux poches étaient dans mon eau chaude.
Pensez-vous que vous allez guérir plus vite de votre rhume avec ça?
Absolument. Bien, vous savez que Sherlock Holmes avait des problèmes à trois pipes? Parce qu'il disait que le problème était tellement compliqué qu'il allait fumer trois pipes. Bien là, j'ai une journée à deux poches de thé.
Ah oui! Voilà. Bon, bien, vous nous raconterez la suite un jour. Un beau conte de Noël, qui sait. Aujourd'hui, au menu, on a plusieurs choses justement au menu. L'exposition intitulée « Au menu Montréal, une histoire de restaurant ». J'ai bien hâte de parler avec Leslie Chesterman, qui a été critique culinaire pendant des années. Elle est autrice, chroniqueuse, porte-parole de l'exposition. Et je crois même que c'est elle qui a eu l'idée de cette exposition, qui est en cours au musée McCord Stewart. Aussi, la chronique économie avec Michel Poitevin qui va parler d'une autre décision de la Banque du Canada qui est à venir, ainsi que de la bataille pour acquérir la Warner Bros. Discovery. Cité Pousse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une ferme urbaine située à Montréal qui vient d'être honorée par l'Office des personnes handicapées du Québec. On en parlera avec la fondatrice Marianne Farreau. Aussi, au menu, la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin, qui nous dévoilera en fait trois titres finalistes à les rendez-vous du premier roman, catégorie Canada, sélection 2025-2026. Elle en a lu pas mal dans cette catégorie-là. Et puis, elle va partager avec nous trois de ses livres qu'elle a lus. Et il y a un coup de cœur parmi les titres. Est-ce Dorothée et les couleuvres, Une histoire silencieuse ou Les pâtes? À suivre, vous saurez ça autour de 10h30. Et on y va avec un bon vieux classique de Noël. Voici Dean Martin.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire, it's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally said goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Yeah, the fire's slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. I hate going out in the storm.
But if you really hold me tight,
well, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow, let it snow, let it snow. Une chanson de Dean Martin ou chantée par Dean Martin.
Et il va neiger à partir de ce soir, fin d'après-midi jusqu'à jeudi midi. On prévoit entre 15 et 20, même au-delà, centimètres de neige. Alors, la une de la presse d'aujourd'hui parle de centre jeunesse. Les fugues bondissent. Depuis 5 ans, elles sont en constante augmentation. La mère d'un adolescent qui s'est enfui de son centre à répétition déplore que rien ne soit fait pour l'en empêcher. En entrevue, la patronne de la protection de la jeunesse estime qu'enfermer tout le monde serait contre-productif. Dans la section dialogue, entente sur l'énergie, une vente au rabais. Une lettre coup de poing de l'ex-ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a donné sa démission, vous vous en souvenez sans doute. Entretien avec Benoît Brière, d'Empathie à Capitaine Crochet. Une entrevue accordée à Jean Siag, journaliste à la presse, par le comédien Benoît Brière, qui peut tout jouer. Il s'apprête à revêtir les habits du Capitaine Crochet dans la comédie musicale Peter Pan. Le comédien nous parle de ses projets de théâtre, mais aussi de ses nouvelles apparitions à la télé, notamment dans la série Empathie, qui aura une suite, où il s'est fait remarquer dans le rôle du patient Jacques Dallaire, qui sera donc de retour dans la prochaine saison. Et puis, autre titre à la une de la Presse Plus, Zachary Bolduc, 100 fois sur le métier, portrait d'un franc-tireur qui n'a jamais compté ses heures. C'est un joueur de hockey. Quand un attaquant marque 2 fois 50 buts dans les rangs juniors et atteint la LNH à 21 ans, son talent n'a pas besoin d'une longue présentation. Or, l'instinct offensif de Zachary Bolduc n'est pas tombé du ciel. Il tire plutôt son origine d'une redoutable autodiscipline, mais également d'une immersion dans un étonnant laboratoire de hockey en Mauricie. C'est Simon-Olivier Lorange qui nous offre un portrait d'un franc-tireur qui n'a jamais compté 16 heures. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose, hein? Le travail, l'effort, l'effort. À la une du Devoir, le Devoir est en Ukraine. Ces soldats biélorusses qui tombent dans l'ombre, plusieurs dizaines de citoyens biélorusses ont perdu la vie aux côtés de frères d'armes ukrainiens depuis février 2022. Mais il est impossible de savoir combien. Québec pèse sur l'accélérateur pour les évaluations environnementales. Le gouvernement Legault veut accélérer l'approbation de grands projets de développement qui peuvent avoir des répercussions environnementales importantes, et ce, en réduisant de moitié les délais d'autorisation de ces projets. Les changements majeurs à la procédure d'évaluation environnementale feront l'objet d'une consultation publique qui se tiendra en bonne partie pendant le temps des fêtes. Le Devoir décortique des aspects de cette réforme. C'est un texte d'Alexandre Shields. Pierre-Paul Geoffroy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le révolutionnaire québécois qui avait été condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité, est décédé samedi. L'ancien membre du Front de libération du Québec, le FLQ, Pierre-Paul Geoffroy, est décédé d'une pneumonie samedi à l'âge de 81 ans. Le militant indépendantiste avait été condamné à 124 peines d'emprisonnement à vie en 1969 pour une trentaine d'attentats à la bombe. Originaire de Berthierville, dans la région de la Naudière, M. Geoffroy étudie à l'Institut des arts graphiques de Montréal pour apprendre le métier d'imprimeur. Il entre ensuite au Collège Sainte-Marie, où il plonge dans le militantisme en marge de ses études en sciences politiques. Geoffroy se radicalise en février 1968 après avoir été tabassé par des policiers lors d'une manifestation en appui aux grévistes de l'usine d'embouteillage de 7-Up à la ville de Mont-Royal. Avec une poignée de camarades, Pierre-Paul Geoffroy fonde le Front de libération des travailleurs du Québec, qui revendiquera ensuite son affiliation au FLQ pour des questions de visibilité. En moins d'un an, ce groupe posera une trentaine de bombes dans des entreprises embourbées dans des conflits de travail. Ce que l'on appellera le réseau Geoffroy compte 2 cellules actives. Pierre-Paul Geoffroy dirige la première, tandis que la seconde est placée sous le leadership de Normand Roy, qui se fera connaître sous le pseudonyme de Selim après un passage médiatisé dans un camp de fédayines palestiniens en 1978. Les enquêteurs découvrent lors de l'arrestation de Geoffroy plus de 200 bâtons de dynamite dans deux grosses malles, 100 de détonateurs, 2 bombes en attente d'être amorcées et une affiche du Che collée au mur. Et puis, dans Le Devoir aussi, on parle des magasins qui vont ouvrir plus longtemps et presque tout le temps. Le gouvernement du Québec compte élargir à toute la province son projet pilote visant à permettre aux commerces de détail qui le souhaitent de rester ouvert plus tard la fin de semaine. Dans le cadre de cet élargissement, le gouvernement permettra aux commerces concernés, comme les magasins, les boutiques et les quincailleries, d'ouvrir tous les jours de 6 heures à 21 heures, sauf les jours fériés, Actuellement, les établissements commerciaux qui proposent des produits en vente au détail doivent fermer boutique à 17 heures le samedi et le dimanche. Depuis quelques semaines, un projet pilote permet à ces commerces situés dans trois villes, Gatineau, Laval et Saint-Georges, d'ouvrir leurs portes jusqu'à 20 heures les samedis et les dimanches sur une base volontaire, hormis les jours fériés. Et puis, à la une du Journal de Montréal, des chauffeurs Inc. proches de Carney. Plusieurs rencontres entre leur porte-parole et le premier ministre. Un proche de Mark Carney et généreux donateur du Parti libéral du Canada s'active en coulisses pour empêcher Ottawa de serrer la vis aux chauffeurs au rabais qui font perdre des milliards de dollars à l'État et sont mis en cause dans un nombre croissant d'accidents. Meringue glacée par François Dompierre pour nous mettre en appétit. Et on l'entend déjà rigoler. Elle s'appelle Leslie Chesterman et j'imagine que vous la connaissez parce que on l'a lu pendant longtemps et on la lit encore. Et puis elle nous fait toujours saliver dans ses chroniques à la radio. Bonjour Leslie Chesterman.
Bonjour, j'aimais bien le nom de ce fils de musique, Meringue glacée.
Oui, c'était pour vous. Alors, on parle avec vous ce matin, Leslie Chesterman, pour nous donner envie de se déplacer au musée McCord Stewart, qui propose depuis la fin du mois de novembre l'exposition Au menu Montréal, une histoire de restaurant. On va pouvoir découvrir cette exposition originale jusqu'au 18 octobre 2026. Alors, on a du temps, mais il faut quand même y aller parce que souvent, quand on se dit on a du temps, on passe à côté. Alors, Leslie Chesterman, d'abord et avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir d'où vient votre amour de la gastronomie?
Mais c'est intéressant parce que justement, j'étais en train d'écrire là-dessus et j'ai eu une genre de révélation en visitant le musée. Ça fait au moins 6 fois que j'ai fait le tour de l'exposition à date. Et ça vient vraiment de mes parents, parce que mes parents, mon père venait d'Angleterre, ma mère venait de Winnipeg, et c'est des gens qui venaient de villes où il n'y avait pas beaucoup de restaurants. Et autant que peut-être il y avait beaucoup de restaurants en Angleterre, dans les années 60, c'était pas très fort ce qu'ils mangeaient. Surtout, c'était après-guerre, alors ça a pris longtemps que les Anglais commencent à avoir des bons restaurants. Et ma mère venait de Winnipeg, et s'il y avait de la gastronomie, je serais étonnée. Mais on parle pas de gastronomie dans ces années-là, les années 60, on parle plutôt de bien manger ou de manger dans un restaurant. Alors, quand ils sont arrivés en 1961 à Montréal, c'était la découverte des restaurants de Montréal. Et déjà dans les années 60, on avait beaucoup de restaurants et ils se sont pas retenus. Mes parents allaient tout le temps au restaurant et dès que j'avais 10 ans, ils nous amenaient avec ma sœur au restaurant. Et j'ai connu vraiment les restaurants de Montréal dans les années, peut-être début 70, fin 70, 80, 90. Et ensuite, j'ai devenu critique de restaurant à la fin des années 90. Alors, j'ai vu ces deux ères de restauration montréalaise, ce qui était peut-être avant la nouvelle cuisine québécoise, qui était très, très, très français, européen, et l'après qu'on voit aujourd'hui.
Est-ce que vos parents ne faisaient qu'aller qu'au restaurant ou ils aimaient aussi cuisiner?
Non, mon père était, je veux dire, il mettait du yogourt sur ses toasts le matin avec l'huile d'olive. Alors, c'était quelqu'un qui vraiment n'a pas aucun intérêt. Mais ma mère était excellente en cuisine et elle a même pris des cours avec Paul Martin.
Ah oui?
Je me souviens, son cartable de recettes, on mangeait des soufflés au Cointreau, on mangeait toutes sortes de choses extraordinaires qu'elle a fait pendant ses cours. Il avait une école, je crois, sur la rue de la Montagne avec une petite boutique à côté. Et non, elle était jusqu'à la fin de ses jours, ma mère était vraiment intéressée, comme moi, en cuisine, recettes, restaurant, tout.
Alors, vos parents vous ont cultivé vos papilles. Et,
absolument.
Est-ce que c'est vrai que l'idée de l'exposition au menu Montréal, une histoire de restaurant, remonte après 10 ans? Et c'est vous qui l'avez eue, là? Cette idée.
Oui, alors je les ai approchés il y a exactement 10 ans parce que je venais juste de finir une série d'articles sur l'histoire de la restauration montréalaise et j'ai dit, coudonc, ce serait super comme exposition et je me souvenais que le critique de restaurant du New York Times, William Grimes, avait fait une exposition de restaurants à New York et c'était divisé les restaurants de célébration et des restaurants de tous les jours.
Est-ce que vous l'aviez visité, l'exposition?
Non, c'était en 2003 et j'ai seulement entendu après qu'il a fait cette exposition.
D'accord.
Alors, je l'ai manqué. C'était au New York Public Library. Et j'ai dit, si New York peut le faire, on peut le faire parce qu'il y a tellement de parallèles entre notre scène gastronomique et celui de New York. Parce qu'à New York aussi, il y avait une explosion, un intérêt dans les restaurants. Après leur version d'Expo 67, The World's Fair, de New York, que je crois était en 1939-1940. Nous autres, c'était en 1967. Mais il y avait beaucoup de parallèles entre, quand même, on est une ville beaucoup plus petite quand même. Mais, alors, j'étais inspirée, j'ai approché le musée.
Oui.
Et 10 ans plus tard, je suis contente de voir qu'ils ont décidé de le faire.
Et comment est racontée l'histoire des restaurants montréalais dans un musée?
Alors, ce qu'ils ont fait, ils l'ont séparé dans alors, il y a les styles de restaurants. Alors, il y a une partie où on va voir des smoked meats et du poulet barbecue, etc. Il y a une partie qui est vraiment les situations en ville où, disons, les moments où c'était au centre-ville, à Vieux-Montréal. Alors, on parle pas des banlieues, mais on dit neighborhood en anglais. Alors, il y avait vraiment un moment à Montréal où les restaurants étaient à Vieux-Montréal. Ensuite, c'était vraiment au centre-ville. Excuse-moi, ça, j'ai connu jeune et mon père qui travaillait au centre-ville. C'était vraiment les restaurants de la rue Crescent, Montagne, de la Montagne, Bishop, Stanley, ça c'était Peel, ça c'était vraiment la place où il y avait les restaurants.
Les restaurants ensuite, quand même assez chers, là, où la facture était assez salée?
assez cher et assez français. Il y a beaucoup de restaurants comme Les Chenets, Les Halles, La Rapière. Ça, c'était vrai. Et ça, c'est des restaurants que j'ai connus à la, au début de ma carrière comme critique. J'ai mangé à Les Chenets où il y avait une carte de vin qui était si énorme qu'il l'amenait sur un chariot à table. C'était fou.
Oui.
Les Halles, qui était M. Jacques Landurie, était propriétaire. Un monsieur tellement classe, qui avait tellement de connaissances en gastronomie. Vraiment un restaurateur pur et dur.
J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'avait fait une entrée dans un pamplemousse avec des petites crevettes. Là, je ne me souviens plus du nom.
Oui, pamplemousse Marie-Louise, je crois.
Oui,
c'était Les Halles. Oui.
Exquis, ouais.
Oui, Les Halles, c'était vraiment un restaurant extraordinaire. Et à la fin de chaque repas, ils amenaient tous les desserts, puis ils mettaient tous les desserts devant tout le monde. Mmh. Et quand je dis desserts, c'était des Saint-Honoré, des Paris-Brest. C'était vraiment des desserts vraiment classiques, millefeuilles. Et comment on peut résister quand le dessert est devant nous et tellement joli à voir?
Mais est-ce qu'il en reste encore des restaurants de ce type-là, Leslie Chesterman, en 2025?
Non. Je vous dis carrément non.
Non.
Ça, c'est vraiment un air qui a disparu. Les chez Bardet aussi, où j'ai jamais mangé, c'était fermé avant que... Je pense que c'est fermé en 81 ou 80. Alors, j'ai jamais... Mais j'ai tellement entendu parler. Et aussi, comme j'ai tellement entendu parler des restaurants comme chez Bardet, Ruby Foods était un grand restaurant sur Descaries, j'aimais l'idée que l'exposition du musée pourrait amener les gens d'aujourd'hui, les jeunes chefs ou même pas chefs, ou les foodies, les gastronomes d'aujourd'hui, et voir qu'il y avait un Montréal gastronomique avant Toqué, avant Au pied de cochon, avant ces restaurants. C'était très, très riche dans les années 80, 70, etc. Et tout a changé dans les années 90 avec les débuts de Normand Laprise, un restaurant qui s'appelle Citrus. Mm-hmm. Et alors, on voit l'évolution, mais c'est très important de savoir que on n'est pas comme Toronto qui a vraiment développé la scène gastronomique à Toronto récemment. Nous autres, ça fait longtemps qu'on a des restaurants à Montréal et des bons restaurants à Montréal.
Est-ce que l'exposition se concentre davantage sur l'histoire de la restauration, c'est-à-dire sur les restaurants dont vous venez de nous mentionner là, les années 70-80, ou ça couvre la période, en fait, jusqu'à aujourd'hui là?
Oui, ce qu'on voit, c'est que on voit avant Expo 67, on voit beaucoup de menus et on parle beaucoup d'Expo 67 qui était tellement important pour nous, non seulement parce que ça a ouvert les portes pour les Québécois de voir que la gastronomie pourrait être quelque chose à part de français ou italien, que c'était vraiment la gastronomie mondiale. Et aussi, beaucoup des chefs qui sont venus pour Expo 67 ont décidé de s'installer dans des restaurants à Montréal. Alors, on a eu tout d'un coup, beaucoup de bons chefs à Montréal. Mais on voit que l'après, et autant que on voit jusqu'à la rue Saint-Laurent, et on voit ces supper clubs de la rue Saint-Laurent, des restaurants comme Buena Notte, ceux qui connaissent ces restaurants-là. Il y avait Globe, il y avait Mediterranean, qui était un excellent restaurant, où aujourd'hui le chef Claude Pelletier, maintenant, est au Club Chasse-Pêche à Vieux-Montréal.
Mm-hmm.
Il y a une partie de l'exposition que j'aime beaucoup, qui était l'histoire du restaurant Le Fado, qui était à Vieux-Montréal, qu'aujourd'hui, c'est le Club Chasse-Pêche. Ils ont repris la place et c'est une cuisine très gastronomique, très moderne. Et avant, le Fado était très gastronomique, un peu français-portugais, bizarrement.
Oui.
Mais c'était très populaire, le Fado.
Et j'ai pas vu l'exposition encore, mais c'est sûr que je vais y aller parce que je suis une foodie, entre guillemets, aussi.
Uh-huh.
Mais il y a des amis à moi qui l'ont vu, les commentaires sont très positifs, mais ils ont dit qu'ils ont remarqué l'absence de certains restaurants italiens comme le Piémontais, la Silla, le Latini, je crois. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des restaurants?
C'est pas moi qui ai choisi les restaurants, c'est le comité, c'est les gens qui travaillent au musée. Moi, je travaille pas au musée, malheureusement.
Ouais.
Et je sais qu'il y avait une décision qu'ils ont prise quand même, c'est qu'ils voulaient que l'exposition dure plus longtemps. Alors maintenant, l'exposition va être là pour un an.
Mm-hmm.
Alors la place qu'ils ont choisie est limitée. Si c'était dans la plus grande salle, moi, je trouve que cette exposition aurait pu être deux fois plus large avec tout ce qu'on a, mais c'est vraiment limité à cause de l'espace. Alors, c'est pour ça. Moi aussi, je vois des restaurants comme The Troika, qui était un restaurant russe incroyable.
Oui.
Katsur est un restaurant le premier restaurant vraiment de sushi sérieux à Montréal. Il y a un autre qui s'appelait, C'était quoi l'autre? Il y en a un autre aussi, mais disons, Caturet, c'était très à la mode. Alors, c'est sûr qu'il va toujours manquer des restaurants, mais je trouve qu'il y a assez pour voir qu'est-ce que c'était la scène gastronomique chez nous. Mais comme j'ai dit, ça aurait pu être deux fois plus grand et c'est juste à cause de l'espace.
Et Leslie Chesterman, parmi les restaurants qui sont disparus, là, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez voir renaître?
Ouf! Est-ce que je pourrais trouver? Est-ce que je pourrais dire deux?
Oui. Moi,
peut-être trois. Ruby Foods, premièrement, c'est un restaurant que mes parents parlaient tellement de Ruby Foods et ma mère a dit que c'est la première fois qu'elle a vu des femmes en robe longue avec des colliers en diamant, que j'ai jamais vu à Montréal dans un restaurant. Le deuxième était chez Bardet parce que j'ai tellement entendu parler de chez Bardet que c'était la gastronomie française extraordinaire. En plus, sur la rue Henri Bourassa, qui est tellement loin du centre-ville.
Ah oui, dans le quartier antique.
Oui. Ben oui, absolument. Et vraiment, la troisième, c'est à la crêpe bretonne.
Ah.
Parce que c'était un restaurant que, quand j'étais jeune, on allait souvent pour manger des galettes ou des crêpes. Il y avait une cuisine ouverte avec une femme qui était complètement habillée en coiffe bretonne. Et c'était une place super l'hiver pour manger des crêpes avec un bolet de cidre parfait. Et ça n'existe plus parce qu'apparemment, M. Tavane, qui était le propriétaire, de ce restaurant et plusieurs restaurants aussi comme El Gaucho qui était un restaurant fabuleux. Mais apparemment, il n'a pas payé ses taxes, il était obligé de partir de Montréal. Alors, je suis très triste, M. Tavane. On aurait pu tous payer vos taxes pour vous, mais gardez la crêpe bretonne qui était un restaurant tellement chaleureux. Oui.
On veut la relève. Diriez-vous que l'âge d'or de la scène gastronomique montréalaise est derrière nous, devant nous, ou on vit présentement l'âge d'or?
Pour moi, il y avait deux âges d'or. Alors, il y avait vraiment avant Toqué, que c'était vraiment dans les années 80 très, très fort, des années 60 à 90, puis ensuite 90 jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que la pandémie a un peu arrêté d'un coup sec notre scène de restaurant, pas seulement pour nous, mais partout au monde. Et je crois qu'on est en train de voir le relève déjà. Et je crois toujours à Montréal qu'on aurait des jeunes qui sont intéressés de faire la cuisine, qui on va être très fiers de ce qu'ils sont en train de faire, parce que le niveau de restauration ici, pour moi, est plus élevé qu'ailleurs en ce moment. Non seulement le niveau de cuisine, mais en salle, en service de vin, on est vraiment top, top, top. Et on commence à voir que Montréal est reconnu sur les listes. Il y avait le World 50 Best. On a eu 5 restaurants sur 50 sur la liste et tout le monde parlait de Montréal ce soir-là.
Mm-hmm. Alors, j'aurais encore plein de questions à vous poser parce que vous êtes trop passionnante, mais je ne suis pas une question piège parce que vous n'êtes plus critique gastronomique, mais votre restaurant préféré actuel en quelques secondes?
Je vais parler de deux restaurants. Moi, j'adore le restaurant Impasto de Stefano Faita et Mike Forgione. Et surtout que Mike Forgione, quand il était jeune, c'était un de mes élèves.
Ah oui.
Et c'est deux gars passionnés. Ils font toutes leurs sauces, etc.
Et puis le deuxième, Leslie, parce qu'il ne reste plus de temps.
J'aime beaucoup un petit restaurant qui s'appelle Cassavant, qui est dans le quartier Villeray. Service de vin extraordinaire et vraiment une atmosphère très relaxée.
On prend des notes. Merci beaucoup. On ira voir l'exposition Musée McCourt-Stewart. Merci, Leslie Chesterman.
Merci. Bonne journée. Bye-bye.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Chronique économie maintenant avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
On attend une autre décision de la Banque du Canada demain.
Eh oui, une dernière pour l'année. Pour savoir ce qui va arriver avec nos taux d'intérêt. En ce moment, le taux d'intérêt est à 2,25, le taux directeur de la Banque du Canada. Puis on a eu 4 baisses cette année. Donc, c'est une année où les taux ont baissé de façon significative. Demain, on s'attend à ce que ça bouge pas trop. Pourquoi? Bien, ça dépend de l'état de notre économie. Notre économie, il y a l'inflation. L'inflation en octobre est à 2,2% pour octobre. En novembre, l'annonce, ça va être plus le 15 décembre. Donc, on ne saura pas encore. Par contre, il y a eu une bonne nouvelle, la croissance du PIB au troisième trimestre. Donc, le troisième trimestre, ce sont les mois juillet ou septembre, une croissance économique canadienne de 2,6%, alors qu'on a vu une décroissance ou une croissance négative au deuxième trimestre. Donc, c'est un beau rebond. Puis ça se confirme aussi par le taux de chômage qui est en baisse, notamment en novembre. On s'est passé le troisième trimestre, mais il continue de baisser à 6,5%. au Canada, puis 5,1 % au Québec. Puis c'était de baisse par rapport à ce qu'on avait le mois précédent. Donc, notre économie est assez vigoureuse, même s'il y a encore de l'incertitude tarifaire. Puis une des raisons, c'est le dernier budget fédéral. Là, on disait qu'on augmentait beaucoup les dépenses, notamment dans le secteur de la défense. Alors ça aide à stimuler l'économie canadienne. Mais il y a quand même deux petites inquiétudes au niveau là, de l'économie canadienne. L'investissement des entreprises qui est à son niveau le plus bas depuis 2021, ça doit être dû en partie à l'incertitude tarifaire. C'est quand même un peu inquiétant. Là. C'est important que les entreprises investissent. On dit toujours qu'on a un retard de productivité sur les autres pays, notamment les États-Unis, mais ça la productivité, ça passe par l'investissement. Si on investit moins, le retard va grossir. Puis aussi, les ménages, on ne dépense pas autant qu'on devrait, là, qu'on espérerait, disons. Puis encore une fois, ça peut indiquer de l'incertitude ou une certaine faiblesse au niveau du marché de l'emploi. Donc, si on fait un petit résumé, l'inflation est dans les limites, là, 2,2, c'est les limites acceptables pour la Banque du Canada. L'économie est en santé, mais tout est fragile. Donc, on s'attend à un statu quo des taux d'intérêt demain pour terminer l'année. Il y a peut-être une autre considération qu'on ne mentionne pas souvent, c'est qu'on s'attend à ce que les taux américains baissent beaucoup dans la prochaine année. Leur économie, l'inflation commence à baisser aux États-Unis. Et puis Trump, le président de la Banque fédérale américaine, son mandat vient à échéance, je pense que c'est en mai 26. Et on s'attend à ce que Trump nomme quelqu'un qui va être très agressif pour la baisse de taux, parce que Trump aimerait beaucoup que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis. Si les taux baissent aux États-Unis puis qu'on maintient notre taux, il va y avoir de l'argent qui va venir des États-Unis vers le Canada, parce que ça va être plus intéressant d'investir à des taux un peu plus élevés au Canada. Ça risque d'avoir une pression à la hausse sur le dollar canadien, ce qui pourrait nuire aux exportations. Donc, ça rentre, j'imagine, un peu dans le calcul de la Banque du Canada, là, mais surtout l'an prochain, ça va être à suivre.
Alors, c'est aussi à suivre dès demain, là, concernant les décisions.
Demain, il y a une annonce, on s'attend à ce que ça ne bouge pas, ça reste à 2,25, qui n'est quand même pas un taux élevé. Avec l'inflation à 2,2, si le taux d'intérêt est à 2,25, ça fait un taux réel, là, ce qu'on appelle un taux réel, donc c'est le taux d'intérêt moins le taux d'inflation, qui est en bas de 1%. Qui est quand même relativement faible.
Et en parlant inflation, Michel, les loyers baissent au Canada?
Oui, peut-être. Des fois, on lit les manchettes, puis on ne s'attend pas à ça. 14e mois consécutif de baisse du loyer moyen au Canada. Le dernier mois, une baisse de 3,1%. Donc, le loyer moyen au Canada est à 2074, mais c'est pas juste à travers tout le Canada. Au Québec, il y a une baisse de 2,6%.
Bien oui, je disais ça, même Montréal.
Puis à Montréal, 3,6. Alors, le loyer moyen à Montréal à 1936 $ par mois. Il y a eu une reprise de la construction, surtout ailleurs au Canada, mais un peu aussi au Québec. Croissance démographique, on en avait parlé l'autre jour, qui est modérée, un peu moins d'immigration. Il y a de l'incertitude économique, puis tout ça fait que, bon, peut-être que les gens ne s'embarquent pas trop dans des loyers chers. Puis ça fait que, bonne nouvelle, ça nous coûte moins cher pour nous loger en moyenne.
Et
ça prend un peu de temps avant qu'on voit l'impact, parce qu'on est dans des baux qui durent un an, là, mais,
oui.
Mais quand même.
Bon, alors, merci pour cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Et on termine avec, oui, c'est une saga, une véritable saga économique. Vous parlez de cinéma autour de Netflix et Warner Bros. Discovery. C'est le milieu du cinéma là, qui est en mouvement.
Le cinéma puis la production cinématographique ou les séries et tout. Oui, c'est toute une saga. Je vous explique, il y a quelques jours, Netflix avait déposé une offre d'achat pour WBD, qui est Warner Brothers et Discovery. Qu'est-ce que ça inclut, ça? Par exemple, HBO, HBO Max, puis les studios d'enregistrement Warner Brothers. Puis en plus, Warner Brothers a des stations de télé, mais il n'était pas inclus dans ce que Netflix voulait acquérir. Il y a quatre jours, Warner Brothers a accepté l'offre de Netflix. Bon, on peut dire, OK, bon, c'est ça. Non, c'est pas fini. Paramount, Skydance, qui est une autre grosse compagnie là, de production aux États-Unis, production cinématographique, a déposé une offre pour la totalité de Warner Brothers, donc non seulement HBO et les studios, mais aussi ses chaînes de télé. Il y en a des connues, CNN, canal de nouvelles continues, le Discovery Channel, entre autres.
Mm-hmm. Une offre hostile, hein? On parle d'une offre hostile. On leur a rien demandé, là.
Exactement. Ils sont arrivés, puis ils font une offre aux actionnaires. On offre tant de l'action, puis, puis là, il faut décider. C'est qui Paramount Skydance? Bien, le président, c'est David Ellison, qui est le fils de Larry Ellison. Il est peut-être moins connu que des gens comme Bill Gates ou Elon Musk. C'est un des hommes les plus riches de la planète. Même pendant quelques semaines, il a été le plus riche cet automne, je pense.
Oui, il n'y a pas de problème pour payer son loyer.
Non, puis même pour payer Warner Brothers, je pense, ou aider son fils à faire l'acquisition, à l'aider dans le financement. Donc, Larry Ellison a fait sa fortune avec une entreprise qui s'appelait Oracle, qui avait des logiciels de gestion de base de données. Donc, ça s'adressait plus aux entreprises. Nous, comme consommateurs, on ne le connaissait pas, mais il était là. Ce qu'il faut mentionner, c'était la sixième offre de Paramount. Donc, ce n'est pas une si grande surprise. Il y avait eu cinq autres offres jugées non intéressantes par Warner Brothers. Okay.
Alors, qui va gagner?
Qui va gagner? Bien, c'est ça. On ne sait pas trop, mais ce n'est pas tout. Netflix a 328 millions d'abonnés. C'est la plus grosse entreprise de
diffusion.
De télédiffusion. Ben, pas télédiffusion, streaming. Là,
une plateforme.
De plateforme numérique pour visionnement. 328 millions, la plus grosse aux États-Unis. Puis HBO Max, qui appartient à Warner Brothers, est la troisième. Paramount a 79 millions. La troisième, HBO, a 128 millions. Donc, on se demande, est-ce que ça va être bon pour la concurrence que la première et la troisième se mettent ensemble? Trump a dit qu'il n'était pas sûr puis qu'il s'en mêlerait. Puis, on n'en doute pas qu'il va s'en mêler parce que, autre fait, je ne voudrais pas dire cocasse, mais à prendre en compte, le gendre du président Trump, là, Jared Kushner, qui est le mari là, de sa fille, est impliqué dans le financement de l'offre de Paramount. Alors, vous voyez qu'il y a un peu, il y a un peu d'inceste là-dedans. Là. Netflix dit que l'Europe...
D'inceste,
là,
vous y allez fort.
Pardon?
Inceste, c'est un mot peut-être...
Ben, économique.
Oui, oui, OK.
Oui, non, pas... ou disons conflit d'intérêt, si vous voulez. Mm-hmm. Puis Netflix dit que son offre, ils vont créer des postes, investir dans la création de séries, etc. Alors que Paramount, eux qui produisent déjà, ont déjà des studios, ils voudraient possiblement en éliminer. Donc, il va falloir suivre ce que fait le président. Pour le Québec, ça se peut que tout ça ait un impact. Bell a une entente avec Warner Brothers et diffuse HBO Max sur la plateforme Crave de Bell. Donc, ceux qui sont abonnés à Crave, vous avez accès, par exemple, à Games of Thrones qui appartient à HBO. Si Netflix achète, mais Game of Thrones va aller sur Netflix. Alors, qu'est-ce qui va arriver de Crave? C'est peut-être pas de bonne nouvelle pour Crave si son portefeuille d'émissions et de séries est amputé de ce qu'elle obtenait de Warner Brothers. Au Québec, Crave a 17 % du marché, alors que Netflix est le plus présent avec 54 %.
Mais
c'est une vraie saga.
Oui, hein? Ça va se régler quand, selon vous? Ben, au cours de l'année prochaine, en 2026?
Alors, ça pourrait
avant?
Être plus vite. Là.
Oui.
Warner Brothers vient d'accepter l'offre. Bon, c'est sûr qu'on est en fin d'année. Ça ne prendra pas, d'après moi, des mois. À moins que le gouvernement s'en mêle et qu'il y ait toute une étude pour savoir ça va être quoi l'impact de la concurrence dans l'industrie. Si Netflix acquiert HBO, là, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais quand il y a des offres comme ça, souvent, bon, il peut y avoir des négociations, mais là, il y en a deux, Warner Brothers, ses actionnaires, il va falloir qu'ils regardent tout ça. Puis évidemment, comme je le disais, le gouvernement pourrait s'en mêler aussi, là,
ouais.
Pour les bonnes et les mauvaises raisons. Bon. Pour la concurrence, je pense que c'est une bonne raison. On veut maintenir la saine concurrence. Puis la mauvaise, c'est peut-être que si le genre du président est impliqué là-dedans, puis Trump veut s'en mêler...
C'est un bon scénario, ça, de film ou de télésérie, hein?
Ben oui, c'est ça. Ça pourrait être la prochaine série de la nouvelle entité créée.
Ben oui, pourquoi pas. Ben merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Bye-bye.
Oui, à la semaine prochaine. Au revoir.
Grand Eugène et il la chanson Décembre.
Citypousse, une ferme urbaine inclusive située à Montréal, vient d'être honorée par l'Office des personnes handicapées du Québec, recevant le prix à part entière 2025 dans la catégorie Entreprise soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Et pour en parler, j'accueille au bout du fil la fondatrice de Citypousse, Marianne Farreau. Bonjour, Marianne.
Bonjour.
D'abord, toutes nos félicitations pour ce prix à part entière 2025. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a nommé votre entreprise, votre nom, lors de la cérémonie?
Ben, ça a été une grande fierté pour moi et puis toute mon équipe qui travaille fort au quotidien. Et puis c'est surtout que j'ai ressenti une reconnaissance par rapport à la mission qu'on défend depuis le début, qui est donc l'intégration, la formation et l'embauche des gens en situation de handicap, notamment avec une déficience intellectuelle. En fait.
Et Citypousse est né en quelle année?
Alors, ça a ouvert officiellement en 2024, mais ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus avec mon époux.
D'accord.
Il a fallu trouver lieu et puis monter le dossier, faire les travaux.
Alors, où vous êtes exactement? Qu'est-ce que vous faites aussi précisément?
Alors, on est rue Meilleur, dans le district central, pas loin de la rue Sauvé. Et donc, on a deux. En fait, on a donc il y a Citypousse qui fait des micro-pousses et qui les transforme en fait par un processus de lyophilisation en super aliments.
Ça veut dire
OK. On va se retrouver avec du brocoli, du chou rouge, du kale lyophilisé qu'on peut intégrer dans notre routine quotidienne avec de l'eau, dans un smoothie, dans une soupe. Voilà. Et puis, à travers Citypousse, il y a aussi la cabane Citypousse qui aujourd'hui a été séparée de Citypousse, mais qui était à l'origine du projet, qui est un kiosque de vente qui est ouvert sur le public, où on sert de la petite restauration donc pour les travailleurs du district central, où on intègre nos super aliments, nos micro-pousses fraîches, et qui aujourd'hui aussi est une chaîne de production de fruits lyophilisés. Voilà.
Oh, ça prend de... Ça prend de l'ampleur. Allez-y.
On cherchait surtout de l'activité qui soit récurrente pour pouvoir former et embaucher plus. Et donc, à travers cette chaîne de fruits lyophilisés, qui est un produit qui plaît quasiment à tout le monde, parce que qui est-ce qui n'aime pas les fruits? Le fait des lyophilisés, c'est une durée de conservation de 1 an à 18 mois, donc il n'y a pas de denrées périssables. On a pu attaquer le marché des entreprises et le marché aussi des retailers. Donc, ça a vraiment augmenté sur notre activité en fait depuis quelques mois. Et c'est surtout là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui parce que c'est un produit qui plaît bien, qui se développe bien. Donc, on mise un petit peu tout dessus dans les prochains mois.
Voilà. Je voulais juste être sûre de bien comprendre le mot « lyophilisé ».
Alors, la lyophilisation, c'est un processus de déshydratation à froid qui permet d'enlever toute l'humidité d'un produit, d'où sa longue conservation, mais c'est surtout, ça fixe 95% des nutriments et des vitamines.
Ah oui.
Donc, quand on se retrouve avec une pomme lyophilisée, on récupère toutes les vitamines, ça fait comme une petite chips de pomme, et c'est un produit qui a une très, très longue durée de conservation. Si elle est conservée dans un sac, Millard, à l'abri d'humidité, en fait.
Et qui travaille chez vous? Des personnes en situation de handicap?
Oui, alors aujourd'hui, on n'a qu'une réelle embauche depuis un an, voilà. Et puis, on a aussi une stagiaire qui est là, donc à 4 jours par semaine, qui après continuera et sera embauchée. Et notre but en 2026, c'est pouvoir d'accueillir déjà une autre personne en formation pendant 6 mois, qui puisse débuter sur une embauche au 3e ou 4e trimestre 2026. Parce que notre but, c'est vraiment d'embaucher les personnes, donc de les former avant. Et une fois qu'elles sont formées et que le domaine lui plaît, l'activité lui plaît, parce qu'avant tout, c'est aussi les personnes, il faut qu'elles aiment faire ce qu'elles font au quotidien, on débouche sur une embauche. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a motivé à créer une entreprise qui donne la chance aux personnes en situation de handicap de travailler, d'évoluer?
Ben, tout est parti de ma fille. Nous, on est arrivé au Canada en 2018. Ma fille a une déficience intellectuelle et sourde et malentendante d'une oreille. On a trouvé une école spécialisée sur Montréal. Et donc, ça a été Apple qui nous a guidés dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, on est ici. C'est ma fille qui nous a emmenés ici, en fait. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse un projet déjà pour elle, parce qu'elle termine son école spécialisée au mois de juin. Après, si on ne lui crée pas un réel métier, est-ce qu'elle en aura un ? Ce qui est très compliqué à l'heure actuelle. Et puis, pour d'autres personnes, voilà. C'est parce qu'on a une fille en situation de handicap.
Alors, votre fille qui s'appelle Chloé.
Chloé, voilà. Et donc, Chloé, aujourd'hui, effectue son stage de fin d'année ici, à 4 jours par semaine. Elle a trouvé vraiment un épanouissement. Elle a développé vraiment des capacités professionnelles. On est même surpris parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Voilà, elle a vraiment trouvé sa place. Et le but, c'est que quand elle ait fini sa formation, elle laisse la place à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse après... augmenter notre capacité d'inclusion. Voilà.
Justement, je me posais la question, quelles sont les compétences, les qualités que vous voyez se développer chez les employés en situation de handicap que vous accompagnez?
Ils sont incroyables, en fait. C'est qu'ils arrivent... Alors déjà, c'est des gens qui sont... Ils arrivent toujours avec le sourire. Ils sont reconnaissants. Ils sont ponctuels. On leur dit ils respectent les procédures, mais vraiment, pas mieux qu'un employé qui n'a pas de difficultés, en fait. Et puis, ils apprennent. Je sais que mon employé qui est salarié, au départ, en motricité fine, il avait du mal sur certaines choses. Et puis, à force de faire, il apprend. En fait. Tout le monde est capable d'apprendre. Le tout, c'est parfois, il y a des petites adaptations, on a créé des visuels. Notre logiciel de caisse aussi, il y a des images et adaptées, mais c'est vraiment des petites adaptations simples, en fait. On décompose les tâches et puis quand il y a une faiblesse, on la travaille. Quand il y a une force aussi, on la travaille. Et puis après voilà, on progresse comme toute personne dans un milieu professionnel. Quoi.
Est-ce que
et
vous
puis, on
sentez...
apprend de ses erreurs.
Oui, j'imagine. On apprend toujours de ses erreurs. Et les gens qui visitent Cité Pousse, qui vont manger, vous avez votre petit café. Comment ils réagissent à être servis par des personnes en situation de handicap? Comment les entreprises aussi du quartier réagissent-elles à votre présence?
Je dirais on a de tout. On a des gens qui sont super ouverts, on leur parle du projet, ils sont contents. Ils échangent et puis on a des gens qui sont malheureusement sont fermés, qui comprennent pas que ça prenne un peu plus de temps, que
sont impatients.
Mais
sont impatients voilà, point de toute façon.
Voilà, comme tout être humain, on a vraiment tout. Mais on a quand même un bon accueil. On a quand même un bon accueil, mais ce qu'on veut changer, c'est vraiment le regard des gens en fait sur le handicap. En fait. Dire que on est handicapé, mais c'est une force, c'est pas une faiblesse en fait. Et puis ça apporte à l'entreprise une richesse parce que on apprend d'eux aussi. On apprend, c'est des gens qui n'ont pas de filtre, donc ils nous disent réellement ce qu'ils pensent. Et puis parfois il y a des remises en question. On se dit on fait des choses comme ça, mais faut vraiment les faire comme ça parce que en fait est-ce que c'est pas nous aussi de s'adapter en fait un peu plus sur certaines choses, de prendre le temps aussi de faire les choses.
Prendre le temps.
Et puis, ça remet l'humain au centre aussi. Parce qu'on est obligé de communiquer, on est obligé de travailler tout le temps en équipe, soudé. Donc ça remet vraiment au sein de notre équipe l'humain au centre, en fait. Et je pense que c'est ce qu'apprécient les gens aussi quand ils viennent ici, parce qu'ils voient des gens qui sont souriants, qui prennent le temps de demander comment ça va, d'échanger, de prendre le temps, en fait, tout simplement. Voilà.
Et Marianne Farreau, quel rôle les entreprises devraient-elles jouer dans l'intégration à l'emploi des personnes handicapées?
Je dirais qu'elles devraient tenter un petit peu plus parce que on a réussi à intégrer 2 personnes sur une équipe de 4 personnes, donc ce qui fait 50%, et qui sont vraiment des gens qui sont utiles. Hein, ce qu'ils font, ils le font. Hein, je veux dire, on ne fait pas leur place. Donc, un petit peu d'adaptation sur des choses simples. Qui n'est pas compliqué, des visuels, des décompositions de tâches. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, il peut y avoir des choses qui soient faites par des gens en situation de handicap. et puis ne pas partir sur des préjugés, puisqu'il y a trop de préjugés, en fait, c'est ce qui freine, en fait. Mm-hmm. Les gens disent, oui, ça va être trop compliqué, c'est pas capable, ils vont mal faire les choses, ils vont pas respecter les consignes. Ben, ils respectent beaucoup plus les consignes qu'un salarié qui n'a pas de difficulté.
Et ça a été quoi pour vous l'obstacle le plus important dans la création de CityPousse dans...
Je dirais que les obstacles qu'on a eus, c'est plutôt des obstacles administratifs, de permis, de, on est un permis de X, permis de législation, de, voilà, ça a été plutôt à ce point de vue-là, en fait. On a perdu beaucoup de temps, en fait, et beaucoup d'argent.
Mais voilà. Vous avez surmonté ces obstacles-là, cet obstacle-là?
Ben, on les a surmontés parce qu'on a un but, et puis il faut atteindre ce but, et puis... Quand je vois, moi, Emmanuel, tous les matins, avec le sourire, en disant « Marianne, merci encore de m'avoir embauchée. » À 43 ans, ça a été son premier salaire. Et pourtant, il en a fait des entreprises à Montréal. Quand je vois ma fille qui me remercie tous les soirs d'apprendre avec elle, qui a le sourire tous les matins, qui veut aller travailler, je me dis « voilà, en fait, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je fais ça, quoi. » Et puis, je veux que ça soit pour beaucoup plus de personnes. Donc, voilà, quoi. On a un but, on avance et puis on prend aussi sur soi. On se dit, on relativise certaines choses. L'administration, c'est long, c'est comme ça, mais on va le surmonter.
On va aller faire un tour pour découvrir CityPousse parce que vous ouvrez le café au grand public?
Oui, le café est ouvert de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 14h le vendredi. Et on sert donc... des soupes maison, des gâteaux maison, des sandwichs vraiment très, très simples. Mmh. On privilégie vraiment l'alimentation. Il n'y a aucun produit transformé. On peut acheter aussi nos fruits lyophilisés sur place, nos micro-pousses lyophilisées. On sert vraiment du sain, du bon, et voilà, sans chichi, sans... Voilà.
Alors, ça vaut la peine d'aller jusque dans le nord de la ville et puis d'être patient aussi.
Pour ceux qui sont dans le coin, et on a même un stationnement gratuit pour les gens.
Ah oui,
donc il y a pas de problème.
C'est rare ça. Ouais. Et en terminant, quels sont les projets que vous souhaitez réaliser pour CityPousse dans les années à venir?
C'est surtout par rapport à la cabane qu'on développe. Notre but c'est de multiplier en fait les cabanes à travers le Québec.
Les cabanes, voilà. Le café.
Le café. De multiplier les cafés et de pouvoir aussi augmenter notre chaîne de production inclusive de fruits lyophilisés. Pour qu'elle soit distribuée un petit peu partout dans les retailers. Et puis, on fait des partenariats aussi avec des entreprises qui nous prennent des petits sachets de fruits lyophilisés en corporatif. Donc là, on a déjà fait des partenariats, mais on veut étendre ces partenariats pour que cette chaîne de production puisse marcher, en fait, à l'année, tout le temps. Qu'il n'y ait jamais de rupture de production, en fait.
Alors, vous souhaite le meilleur, que tous vos rêves se réalisent. Je parlais avec Marianne Farreau, fondatrice de CityPousse, qui s'écrit CITIPOUSS. P majuscule O-U-S-S, lauréate du prix à part entière 2025 dans la catégorie Entreprise soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Bravo pour tout ce que vous faites, Marianne Farreau, et bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. On va écouter Mia Tiner, la grande gagnante de Star Academy, dans sa version d'une chanson, un classique de Noël. Je ne vous en dis pas plus. Et tout de suite après, ce sera la chronique livre avec Anne-Marie Aubin.
Quotidien avec Hélène Denis. Traîneau vagabonde,
royaume du bonhomme hiver, c'était Mia Tiner.
Oui, ça rime. Alors, c'est l'heure de la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour, Anne-Marie. Allô? Où est-elle?
Elle est dans la neige.
Au royaume du bonhomme hiver. Anne-Marie est là, bonjour.
Bonjour, il y a eu un problème technique, là, je ne sais pas c'est quoi.
On dirait, ça arrive, hein, dans les meilleures familles oui. radiophoniques. Anne-Marie, vous avez lu 3 premiers romans.
Oui, qui font partie de la sélection québécoise 2025-26. Et puis, ben, présentement, depuis, je dirais, le mois de septembre, il y a des clubs de lecture qui se forment partout au Québec et qui lisent tous ces titres-là afin de finalement envoyer des notes très bientôt à l'Union des écrivains qui va compiler tout ça et il y aura un gagnant qui va être connu un petit peu plus tard, peut-être en mars. Alors moi, j'avais déjà lu « Même pas morte » dont j'ai parlé, qui était aussi finaliste au prix Jeannette Bertrand au prix des collégiens, « Poudreuse » qui était lauréat du prix des collégiens, « La mère des larves », j'en ai parlé il y a 2 semaines, je crois, qui était aussi finaliste au prix Jeannette Bertrand et au prix des collégiens, « Amiante » qui a récolté quantité de prix, « Rue Escali », qui avait le prix Robert Lich. Et là, je vous parle de Dorothée et les couleuvres. C'est un roman qui est paru aux éditions La Mèche en 2024, de 145 pages d'une autrice, donc qui est à son premier roman, qui s'appelle Hélène Forêt, née à Montréal en 94. Elle est toute jeune. Et puis, elle fait de la musique aussi. Puis, présentement, elle vit à Kamouraska, où elle se consacre davantage à l'écriture. Alors, c'est un roman sur la quête de soi, la quête de sens, où on sent que l'héroïne, Dorothée, quitte la naïveté de l'enfance pour aller vers des questionnements qui l'amènent à la peur de ce que c'est devenir une adulte aussi, qu'est-ce que c'est le monde autour d'elle. Et puis, bon, ben, il est question, bien sûr, de la nature, elle est très sensible à la nature, dans l'imaginaire, et dans une espèce de solitude, parce qu'à un moment donné, cet enfant-là est alité et nous raconte que sa mère l'entoure de livres. Donc, elle vit comme une période de... C'est les vacances, c'est l'été, mais c'est comme si elle ne profitait pas vraiment de la vie, qu'elle cherche le sens de l'existence. Elle observe sa famille, ses voisins, il y a des sœurs cloîtrées pas loin dans le quartier où elle vit. Donc, c'est un roman contemplatif. Et je vous lis un extrait. « Moi, je ne voulais pas m'affirmer. Je rêvais de me diluer, ravaler le fait d'être quelqu'un, ravaler mon nom. » Être englouti de la tête aux pieds dans l'univers comme la pluie dans le lac Sainte-Marie. Moi, je voulais donner ma langue en offrande. Ce style-là, ça m'a fait penser un peu à Régent Ducharme, avec ces personnages enfants qui ne veulent pas devenir adultes. C'est un peu comme ça. Alors, c'est un très beau livre qui est un ton contemplatif et qui nous amène finalement à cette période où on quitte l'enfance et puis qui se questionne aussi sur l'univers. Elle vit en ville, là, mais justement, quand elle va chez ses grands-parents, elle est en campagne, elle observe les arbres. Et chaque jour, son père est un contemplatif comme elle et il observe les couchers de soleil. Donc, un très beau roman d'une jeune auteure à suivre.
À suivre. Dorothée, c'est quand même assez particulier comme prénom. Il me semble qu'on n'entend plus ça en 2025. Est-ce que ça a un lien avec Le magicien d'Oz?
Oui, jusqu'à un certain point, oui, parce qu'il y a question de sorcière là-dedans. Oui, oui, c'est sans doute pas innocent.
Et le deuxième, je pense que vous l'avez beaucoup aimé, en particulier, que vous parlez, vous m'aviez dit que c'était votre coup de cœur. Une histoire silencieuse.
Oui. Oui, c'est un livre qui est aussi finaliste au prix de la Ville de Montréal, qu'on va connaître, je pense que c'est demain qu'on va connaître les lauréats, le titre lauréat. Alors, c'est écrit par Alexandra Boilard-Lefebvre, publié chez La Peuplade. C'est un livre de 237 pages, mais qui se lit, qui se dévore en quelques heures, parce que c'est pas toujours des pages pleines. Parfois, il y a juste quelques lignes, c'est des dialogues. C'est quelque chose aussi qui nous prend dès le début, puis qu'on veut vraiment pas quitter, vraiment pas. Alors, de quoi il s'agit, c'est que sur la photo de la page couverture, on voit une femme en robe de mariée, là, et sa mère, sans doute, installe sur sa tête le voile. Donc, on est dans les années 50-60, là, c'était 60, en fait, elle se marie en 61, cette femme, elle s'appelle Thérèse, c'est la grand-mère de l'autrice, qui s'appelle Alexandra Brolard-Lefebvre. Et puis, cette grand-mère-là, elle est morte très jeune. Elle avait 27 ans, 3 enfants. Elle vivait à Chicoutimi.
27 ans.
Et là, on ne sait pas grand-chose. Comment c'est arrivé? Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une enquête pour faire son récit de vie. Un peu la manière de plusieurs autrices qui ont fait ça récemment. Je pense à La femme qui fuit. Anaïs Barbeau-Lavalette avait fait une enquête pour savoir c'était quoi la vie de sa grand-mère. Puis, bon, mais il y a une tendance présentement, une quête, et ça nous amène à connaître la vie des femmes au début des années 60. Ces femmes-là qui parfois avaient étudié, elle était éduquée, cette femme-là, elle avait un travail, elle travaillait avec des avocats, il paraît qu'elle était très brillante, tout ça, mais qui quittaient tout pour suivre leur mari, faire des enfants, et puis finalement s'occuper de la maisonnée. Alors, moi, je trouve que c'est très important que des jeunes d'aujourd'hui lisent ça parce que la vie a tellement changé qu'ils ne peuvent pas savoir que si, c'est pas si loin que ça, c'est les années 60, mais la vie était très différente. Alors, il y a question du mariage, de la dépression, de la solitude de ces femmes-là, de la maladie mentale, des secrets de famille, des tabous, des jugements, de la difficulté, finalement, d'être une femme dans ces conditions-là quand tu as des enfants, puis que tu dois tout faire. Et puis, ben, ça correspond à une période où tout va changer 10 ans plus tard. Et donc, cette femme-là, qui est morte à 27 ans, en 1970, mère de 3 enfants, elle était dépressive et elle se serait suicidée. C'est ce qu'on comprend au fil des lectures, qu'elle aurait pris trop de barbiturique, mais qu'elle avait annoncé ça en allant. Elle allait régulièrement voir sa famille à Montréal et puis elle avait dit « si je fais une pierre tombale comme ça, si je meurs, je veux qu'il se passe ça ». Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Là, ils ont dit « voyons, pourquoi elle parle de ça maintenant? Elle est bien trop jeune, elle n'est pas malade, rien ». Mais non, elle cachait quelque chose. Et quand on lit ça, on pense à des gens qu'on connaît. On pense à nos tantes, nos grands-mères. On pense à ces femmes qui ont finalement fait des sacrifices énormes. Puis, bon, ben, on ne peut pas faire autrement qu'être touché, qu'être bouleversé. Puis, au bout de tout ça, là, on n'a pas énormément de révélations, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des entrevues et elle dicte mot à mot les dialogues avec les gens qu'elle rencontre qui ont connu cette femme-là. Puis, il y a des hésitations, des points de suspension, des répétitions. On voit là, qu'il y a une difficulté de parler de ça, d'aller chercher ça dans la mémoire, qu'il y a des tabous autour de ça. Elle révèle finalement des pans de sa vie, puis des quand dira-t-on, il n'y a rien qui est absolument officiel, il n'y a que Thérèse qui sait la vérité, puis elle n'est plus là pour le dire. Alors, c'est un très beau livre, très bien écrit, très émouvant, et qui témoigne d'une génération de femmes qui se sont mariées en renonçant à tout ce qu'elles avaient été pour s'occuper de la maisonnée. Elle fait référence aussi à une étude qui a été faite sur les housewives. Et moi, ça m'a fait penser aussi à une espèce de tendance là, qu'il y a aux États-Unis de femmes qui veulent retourner au foyer puis qui pensent que c'est ça le rôle d'une femme. Là. Alors, on est vraiment dans un thème qui nous touche.
Pas juste aux États-Unis, malheureusement.
C'est ça, oui. Alors, très, très, très beau livre de cette fille. Qui a finalement passé des années à chercher le trou dans cette famille-là qui était laissée autour de sa grand-mère, le flou, pour en faire un portrait, mais qui est en même temps un portrait universel de probablement beaucoup de femmes dans les années 50-60. Et je dirais qu'ils ont commencé à se libérer fin des années 60, début 70. Alors, c'est important de lire ça, de le faire connaître. Et puis, c'est une très belle lecture. Moi, j'ai commencé ça... Et j'ai pas pris 24 heures pour le lire. Là. J'étais plus capable d'arrêter. Là. Je voulais savoir pour femme pourquoi elle a fait ça. Là. Alors, c'est un très beau livre.
Une histoire silencieuse, c'est sa grand-mère, j'imagine, qu'on voit en page couverture,
oui,
en robe
exactement.
De mariée, une photo noir et blanc magnifique. Et oui. Vous aviez raison, le Grand Prix du Livre de Montréal sera remis demain, mais le livre Une histoire silencieuse ne fait pas partie des 5 finalistes. Il y a Howard de Maxime Brion, Les très difficiles d'Evelyne de la Chenelière, The Capital of Dreams, Heather O'Neill, Soleil d'abandon, Mathieu Roland et Un carré de poussière d'Olivia Tapiero. Mais les 5 titres dont fait partie Une histoire silencieuse d'Alexandra Boilard-Lefebvre font partie donc de la sélection du jury. Elle a été sélectionnée, mais pas retenue, mais
voilà.
On va le lire. Une histoire silencieuse aux éditions La Peuplade. Et vous terminez avec le troisième qui vous a peut-être moins enchanté, Les pâtes. Drôle de titre. Christian Lambert, est-ce que c'est un roman gastronomique?
Pas du tout. C'est aux éditions La Maison en feu. C'est un petit roman de 200 pages et la page couverture, si on l'observe, là, tout est fait avec des pâtes. Il y a des spaghettis, des macaronis autour des fenêtres. Là. C'est très drôle parce
comme les enfants qui faisaient des colliers, qui en font peut-être encore là, avec les macaronis.
Puis des collages, on faisait ça aussi.
Oui.
Alors, l'auteur Christian Lambert, c'est quelqu'un qui travaille dans une municipalité, on ne sait pas trop laquelle, mais on dit qu'il écrit sur la collecte des déchets, l'accès au parc et au règlement de zonage. Donc, il est dans une municipalité, puis il a inventé une municipalité qui s'appelle Les Pâtes. Puis, cette municipalité-là vit des difficultés parce qu'ils ont une usine, évidemment, qui font des pâtes alimentaires. Mais là, il se passe des drames. Alors, ce qui fait qu'ils essaient de survivre, sont en mode survie, comme beaucoup de petites villes. Alors, dans ce village, j'appelle ce village, c'est une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde se juge, tout le monde s'observe, alors c'est difficile d'avoir des secrets. Et puis bon, ben, il y a des petites intrigues, parfois c'est un peu prévisible, il y a des fils qu'on voit, donc qu'on devine un peu ce qui va se dérouler. C'est une intrigue là, que moi j'aurais mis dans un roman adolescent. Là. Ça commence qu'on découvre des graffitis sur un mur, puis là il y a l'héroïne, c'est une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Jeanne. Elle va faire une fugue et elle, sa mère, vit avec un homme qui est son beau-père, qui a un motel. Et puis, dans le motel, on trouve un cadavre. Ça commence comme ça. Elle avait fugué avec un garçon qu'elle aime bien. Et ce garçon-là va voler de la drogue chez une femme en cachette. Ils vont fuir. Il va se passer plein de petits problèmes. Donc, on sent là-dedans les conflits entre les gangs. Il y a une gang qui s'appelle la Catelli Gang, Catelli comme les pâtes. Donc, bon, vous comprenez le lien. Il y a des cadavres qu'on trouve ici et là, dans les bassins de la ville. Bon, puis là, ben, pour eux autres, c'est bon parce qu'ils disent que la municipalité, ça va lui faire de la publicité, ça va peut-être attirer des gens. Bref, le malaise que vivent les petites villes, on peut le sentir à travers ça. Mais je trouve que les personnages n'étaient pas assez développés, puis l'intrigue était un peu faible. Et bon, ben, c'est pas parfait, là. Mais je comprends l'idée des jeux de mots sur les pâtes. Et puis bon, ben, aussi ce qui se passe, le gars, s'il passe sa journée là-dedans, ben, il est inspiré par ce qui s'appelle une municipalité. Mais ça ne m'a pas emballé plus
bon,
que ça. Là.
Les pâtes sont trop cuites.
Voilà, ça va coller.
Alors, c'est aux éditions de La Maison en feu par Christian Lambert, si ça vous intéresse quand même. Merci beaucoup, Anne-Marie. On va se retrouver la semaine prochaine. Est-ce que vous savez déjà de quoi vous allez nous parler?
Oui, j'aurai 3 titres pour des gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de littérature, là, mais de titres que je trouve intéressants à offrir et à s'offrir pendant les vacances.
Des histoires populaires.
Voilà.
OK. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Au revoir.
À te regarder, de comprendre comment tu vois les choses passer. Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui, et à chaque moment la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque.
Mais c'est toujours les vacances. Avec toi, c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand
comment je faisais avant, à quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie où tout n'était que souci, mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que s'étire les heures, que tout reste au beau fixe. Toi, c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Les trois accords et cœurs de pirates qui chantaient toujours les vacances.
L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches a présenté en primeur, c'était le 26 novembre dernier, les premiers documents, soit quatre courtes vidéos thématiques qui seront la base de la campagne de sensibilisation loisirs inclusifs 2025-2028. La campagne a pour objectif d'augmenter la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs adaptées. C'est en présence de Nathalie Bolduc, conseillère à l'intervention stratégique de l'Office des personnes handicapées du Québec, organisme ayant financé ce projet, via le programme de soutien aux organismes de promotion et d'une vingtaine de membres et partenaires de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches, qu'ils ont visionné les vidéos abordant ces quatre thèmes du loisir adapté, activités de plein air, intérieur, hivernale, et des arts visuels de la scène. Ces vidéos montrent des personnes en situation de handicap prenant plaisir à pratiquer des activités de loisirs avec des équipements adaptés dans des lieux accessibles de la région. Pour visionner les vidéos, vous allez sur youtube.com/arlph-ca. Ou sinon sur le site de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et le groupe Mégascène ont dévoilé les détails de son 29e télé-radiothon. Le spectacle-événement aura lieu le samedi 17 janvier à 19h30 à la salle des Jardins de Rimouski sous la direction artistique de Nelson Mainville. Le spectacle réunira Marie-Carmen, Paul Piché, Andréane Amalette, Damien Robitaille, Jeanne Côté et Philippe Côté. Pour l'occasion, la directrice musicale rimousquoise et bassiste Marianne Arsenault, le guitariste Raphaël Damour, le batteur Marc Chartrain, la claviériste Andréane Museau et la choriste Julie Houd s'uniront pour former le Biz Biz Band. Le chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent viendront compléter la distribution. L'humoriste Marc-Antoine Lévesque assumera l'animation de la soirée. Une émission de 2 heures pour le Télé-Radioton sera également réalisée. La diffusion aura lieu le dimanche 25 janvier entre 10 et 20 heures sur toutes les télévisions communautaires de la région, sur certains sites web de médias partenaires et sur le site web www.laressource.tv. Événement de financement phare de l'organisme La Ressource, le Télé-Radioton lui permet de maintenir sa mission en offrant du réconfort à des personnes vulnérables de la communauté à travers ses différents services. L'objectif pour cette année sera fixé à 300 000 $. Les billets pour le spectacle du 17 janvier sont disponibles à la billetterie de Spectart au 418-724-0800. Je répète, 418-724-0800 au 25 rue Saint-Germain-Ouest à Rimouski. Ou sinon, vous pouvez passer par le site web spectart.com, S-P-E-C-T-A-R-T.com, et au bureau de la ressource situé au 7B, 5e rue, à Rimouski. Tragique histoire, la famille d'une octogénaire retrouvée morte dans un froid glacial à l'extérieur d'une résidence pour aînés à Laval hier pleure une perte qu'elle juge évitable et dénonce des mesures de sécurité défaillantes. On en parle notamment dans le Journal de Montréal. Ce genre de mort-là, on ne souhaite pas ça à personne, déplore le petit-fils de la victime, Alexandre Renaud. Sa grand-mère, Jeanne Demers-Goyer, 88 ans, a été retrouvée morte hier matin près de la résidence Villagia de l'Île-Patton, dans le secteur Chomedey à Laval. Les policiers ont été appelés vers 6h50 pour une assistance médicale, mais ont constaté son décès sur place. Les circonstances exactes entourant sa sortie et les causes de son décès restent inconnues. Selon les dires de sa famille, la défunte vivait au deuxième étage de l'immeuble dans une section destinée aux personnes en perte d'autonomie. Beau. Love, Sofiane Pamart. Ici Hélène Denis. Passez une belle journée. À demain.